Après, à l'Angleterre, on va poursuivre sur l'actualité du Proche-Orient avec une situation voisine, intimement liée, celle du Liban et de tous les pays autour, c'est la situation israélo-palestinienne. Nous avons voulu, avec Jean-François Le Gren, qui est chercheur et qui a vécu 8 ans au Proche-Orient, de l'actualité des accords de tabac, la poursuite des accords de paix donc entre Israël et OLP. Et bien, le dernier événement, c'est par là que nous allons commencer, le dernier événement, c'est-à-dire l'assassinat par un intégriste juif du premier ministre israélien Isaac Rabin. Jean-François Le Grand.
Oui, sur la mort de Rabin, je n'ai pas grand-chose à dire, sinon je crois qu'en effet, les accords ne sont pas liés à la personne même de Rabin, mais à l'ensemble du gouvernement israélien, et on peut imaginer donc que ce gouvernement continue sur sa lancée. En revanche, sur les accords eux-mêmes, là je crois que ce qu'il faut remarquer, enfin ce qui me concerne, c'est selon moi qu'ils ne sont pas à même de déboucher sur une paix juste et durable, pour l'expression habituellement utilisée, dans la région. Je crois en effet que les termes, si vous voulez, de cet accord, ou de ce accord, puisque... Il faut considérer donc à la fois l'accord dit d'Oslo, enfin signé à Washington donc en septembre 1993, dont les termes de matérialisation, je dirais, ont été donc signés ensuite au Caire au printemps 14 et ensuite à Taba, donc tout récemment. Je crois que l'ensemble de ces accords, en effet, ne pas de façon adéquate au minimum des revendications nationales palestiniennes, et de ce fait pas déboucher sur une paix juste et durable, puisque un jour ou l'autre, les frustrations palestiniennes, malheureusement, donc ne pourront s'exprimer qu'à travers de nouvelles violences. Je crois que cette situation de tous ces accords tient à la fois aux principes sur lesquels donc ils reposent et sur les modalités de leur mise en œuvre. Si on commence par les modalités, bon, on se rend compte d'une part que dès au lendemain même de Clinton, une succession de retards a pu être observée, ou de distorsions des textes signés. Je vous rappelle quand même que donc le redéploiement de l'armée israélienne, qui commence tout juste à s'esquisser en Cisjordanie, aurait dû être achevé l'été 94, et que en fait au lendemain de septembre 93, déjà d'immenses retards avaient été pris pour le redéploiement des troupes israéliennes dans la seule bande de Gaza et autour de Jéricho. Donc des retards qui ont été justifiés par Rabin et par Pérez avec l'expression « aucune date n'est sacrée ». Et on a vu le même mépris, je dirais, des calendriers s'exercer au lendemain de l'accord de tabac, puisque le redéploiement avait également pris du retard, et que la libération, par exemple, des prisonniers politiques palestiniens a pris également du retard, le président Weizmann refusant de signer la libération d'un certain nombre de détenues femmes, alors même que les accords prévoyaient la libération de toutes les femmes palestiniennes des prisons israéliennes.
Donc du retard dans la pratique par rapport à ce qui avait été envisagé ou annoncé. Mais concernant ces accords eux-mêmes, même s'ils étaient appliqués à la lettre, il y avait déjà de fortes lacunes, des gros manques, qui n'étaient pas forcément définis dans le temps, mais aussi par rapport au nombre de Palestiniens concernés, quoi, notamment ceux de la diaspora.
Oui, donc je parlais tout à fait, moi, de la mise en œuvre. Mais si on vient, en effet, au principe, on se rend compte que ces accords, en effet, ne peuvent pas répondre aux aspirations palestiniennes, car ils ont été, je dirais, quasiment imposés aux Palestiniens, en tout cas à l'OLP, qui est dans une situation de défaite et de faiblesse radicale, qui remonte d'ailleurs au début des années 80, suite donc à l'expulsion des Palestiniens du Liban, donc en 82 et 83. Et je crois que le problème fondamental, c'est que donc toute la politique israélienne et américaine depuis, alors, depuis 30 ans, depuis 20 ans maintenant, c'est de refuser aux Palestiniens le droit à l'autodétermination et donc la reconnaissance en fait de leurs droits nationaux. Si vous regardez tout ce qui s'est passé ces derniers temps, donc d'une part, bon, Israël avait s'était acquis le soutien des États-Unis dans ce refus de reconnaître les droits nationaux palestiniens et qu'il a été imposé aux Palestiniens, justement, lors de la conférence de Madrid, de renoncer à la revendication donc de leurs droits nationaux en renonçant à la présence dans les accords qui ont été signés, donc à la fois pour la convocation de la conférence de Madrid, mais également dans la rédaction de l'accord de Washington, de la mention parmi les références de la légalité internationale des résolutions donc 147, c'est-à-dire la résolution de partage de la Palestine de 1947, la résolution 194 de 1948-49 qui prévoyait donc le droit pour les réfugiés soit de revenir, le droit au retour, soit de recevoir compensation pour la perte de leur terre et de leur maison. Et également renonciation de la part des Palestiniens, selon l'expression qui a été reçue à l'époque, de toutes les résolutions pertinentes de l'ONU concernant la question palestinienne. Et les deux seules résolutions qui ont été retenues pour l'accord, comme référence légale pour l'accord donc, de Washington, ce sont les résolutions 242 et 338 qui ne font aucunement référence aux droits nationaux palestiniens, à un éventuel partage, mais qui ne parlent que de retrait des territoires occupés en 7 et considèrent la question palestinienne comme simplement une question de réfugiés qu'il convient de régler au mieux. Et c'est là, donc, je crois, le fondement même de cette politique israélienne et américaine, le refus donc, de considérer que les Palestiniens ont des droits nationaux. Et c'est pourquoi je crois qu'il est à la fois inadéquat et, je dirais, même malhonnête de parler de reconnaissance mutuelle à propos donc, de l'échange des lettres qui s'est effectué à la veille de la signature de l'accord à Washington entre donc Yitzhak Rabin, Premier ministre, et Yasser Arafat, président de l'OLP. Puisque je vous rappelle que dans ces lettres, si Yasser Arafat a, lui, reconnu au nom des Palestiniens les droits nationaux du peuple israélien et le droit des Israéliens à une partie de la terre de Palestine et à l'édification de leur État sur cette partie, Israël, à travers Rabin, n'a pas reconnu de droits nationaux au peuple palestinien, mais s'est contenté de reconnaître l'OLP comme représentant du peuple palestinien.
Les partisans des accords d'Oslo et de la suite, des accords de tabac, mettent en avant le fait que pour la première fois, l'État d'Israël reconnaît l'existence des Palestiniens. Avant, il y avait un interdit législatif pour les citoyens israéliens de prendre contact avec des représentants de l'Organisation de libération de la Palestine. Mais en fait, à part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ces accords? Qu'est-ce qu'il y a comme avancée? Nous avons posé la question toujours à Jean-François Legrain, qui est, comme vous l'avez entendu, pas tout à fait enthousiaste de cette paix israélienne en Palestine. Jean-François Legrain.
Les accords d'Oslo, actuellement, ne débouchent que sur, un réaménagement des conditions de l'occupation. En ce sens qu'il n'y a plus de présence directe, massive de l'armée israélienne au cœur, ou il n'y aura plus de présence massive de l'armée israélienne au cœur des zones peuplées palestiniennes, mais ce qui n'applique pas une renonciation de la part d'Israël à sa présence indirecte et au dernier ressort, toutes les décisions, qu'il s'agit des décisions de sécurité ou économiques ou autres, restent entre les mains d'Israël. Et on voit bien depuis la signature des accords d'Oslo que à tout moment, Israël isole, ferme les zones autonomes et mène ces zones à une situation de quasi-asphyxie économique. et empêche le pouvoir, l'autorité palestinienne de mener une politique réellement autonome ou indépendante.
Concernant l'évolution de ces accords, donc avec leur dernière étape fin septembre de Taba, ce qui prend forme, c'est ce que certains appellent des bantoustans palestiniens, c'est-à-dire des petites zones très limitées, urbaines en général, dans lesquelles ils pourraient circuler un tant soit peu librement, mais dès qu'il s'agirait de sortir, c'est à nouveau, avec une sorte de dégradé, des patrouilles mixtes palestiniennes, israéliennes, puis le contrôle israélien.
Oui, c'est tout à fait la réalité. Si vous considérez ce qui s'est passé ces deux dernières années, ou tout au moins depuis une année, depuis le retour d'Arafat à Gaza, Gaza fonctionne comme un bantoustan, puisque la bande a été... du fait de la présence des colonies israéliennes séparées en quasi trois zones qui peuvent être à tout moment rendues étanches entre elles. Les Palestiniens peuvent circuler à l'intérieur de ces zones, entre ces zones quand il n'y a pas crise, mais à tout moment l'armée peut, par sa présence, il y a encore plus de 20% de la bande de Gaza qui demeure sous le contrôle des Israéliens, et donc l'armée peut à tout moment soumettre les zones autonomes à une situation de blocus.
Si on résumait brutalement, on pourrait dire que jusqu'à la séquence de ces accords, c'est la cooptation d'une petite couche, d'une petite élite palestinienne, l'aggravation des difficultés pour la grande majorité des Palestiniens et le gain pour Israël de la fin, enfin plus ou moins la fin de l'intifada.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que dorénavant, à Gaza, pour le moment, et peut-être ailleurs dans les mois qui viennent, disons que le sale boulot, entre guillemets, est fait par la police palestinienne. Et donc c'est pour ça que je parle de réaménagement des conditions de l'occupation. Même si, bien évidemment, c'est un point éminemment positif pour les Palestiniens de la bande de Gaza de ne plus se trouver face à face avec un soldat israélien en bas de chez soi. Mais le soldat israélien, il est à 10 mètres ou à 2 kilomètres, de toute façon.
Oui, mais alors, ce que certains Palestiniens disent, c'est que, en fait, c'est un tien vaut mieux que deux tu l'auras, on s'accroche déjà à ce qu'on a, et puis par la suite, on arrivera à nouveau à gagner davantage d'espace.
C'est en effet ce que le discours tenu par les optimistes ou ceux qui veulent croire à ce processus. Mais je crois que malheureusement, le problème, c'est que on n'est pas sûr du tout d'obtenir plus et plus loin, et je dirais même au contraire qu'on est quasiment sûr qu'il n'y aura pas plus du fait de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de cette volonté israélienne de ne pas reconnaître les droits nationaux palestiniens et de ne pas renoncer donc au sionisme et à leurs droits sur l'ensemble de la terre, et du fait de toutes les décisions unilatérales qui ont été prises et qui sont encore prises par Israël aujourd'hui. Je vous rappelle quand même qu'en dépit de tous les accords signés, le nombre de colons qui s'installe à Gaza aujourd'hui est en constante augmentation. Donc le colon qui s'installe aujourd'hui en Cisjordanie est en constante augmentation. À Jérusalem, tous les jours, vous avez de nouvelles constructions qui sont lancées. Donc il y a des mesures unilatérales qui sont prises tous les jours par Israël et qui visent à vider quasiment de tout contenu, les négociations futures sur à la fois la souveraineté, sur les colonies, sur les frontières et la question des réfugiés, donc des négociations qui sont censées s'ouvrir à partir du mois de mai 1996. Et lorsque l'on considère les travaux absolument gigantesques qui sont menés actuellement par Israël dans les territoires occupés, donc d'infrastructures routières, de routes dites donc de contournement des zones palestiniennes, de routes qui lient entre elles les colonies pour des raisons de sécurité. On ne peut pas imaginer qu'un État fasse de tels investissements qui coûtent des dizaines de millions de dollars pour abandonner ces investissements deux ans plus tard. Quand on creuse des tunnels de 2 km de long pour passer sous les banlieues palestiniennes et relier entre elles les banlieues israéliennes de Jérusalem, c'est le cas donc du côté de Bethléem, lorsque l'on crée donc des échangeurs de plusieurs centaines de mètres et des routes, un réseau routier de plusieurs centaines de kilomètres, c'est pas pour l'abandonner deux ans plus tard.
On en vient toujours avec Jean-François Legrand au problème de Jérusalem, qui n'est pas seulement un problème symbolique, mais évidemment, là derrière, il y a pour les Palestiniens et pour les Israéliens des gros problèmes pour céder cette ville. Or, on sait que dans la partie est de Jérusalem, bon, depuis quelque temps, c'est les Israéliens qui sont majoritaires. Il y a une politique pour ronger des territoires, des maisons, petit à petit, à la population palestinienne. Jean-François Legrand.
Je vous rappelle que le jour même de la signature de l'accord de Taba, dans sa déclaration faite devant la Knesset pour le vote donc de la Knesset et qui devait entériner donc l'accord de Taba, Rabin a souligné que au terme de l'accord de Taba, Israël le contrôle sur plus de 70% de la Cisjordanie, que les frontières de sécurité d'Israël seraient la vallée du Jourdain et qu'il conserverait de toute façon Jérusalem et toutes les colonies de la grande ceinture de Jérusalem, donc que l'on appelle le Grand Jérusalem, qui va de Bethléem au sud à Ramallah au nord et quasiment aux portes de Jéricho, et qui couvre donc quasiment 30% de la Cisjordanie. Et là, Rabin a été très clair à cette époque, il a dit il n'est aucunement question de rendre une moindre parcelle de cette partie de la Cisjordanie.
Donc on arrive aussi à ceux qui sont en désaccord avec ce processus. D'ailleurs, la tendance générale, c'est de dire, bon, il y a ceux qui veulent la paix, et puis il y a les extrêmes. Les extrêmes, on en a entendu parler au moment de la mort de Rabin concernant les Juifs, et puis régulièrement, on entend parler concernant les Palestiniens, de ces fanatiques intégristes, etc., du Hamas ou de djihad. Mais on n'en sait pas plus, on a l'impression que ce sont des extrémistes qui tombent du ciel d'un côté comme de l'autre. Et est-ce que c'est si métaphysique que ça ?
Oui, donc je crois d'une part de dire que les opposants, je crois que votre vocabulaire que vous venez d'utiliser est lui-même est un vocabulaire militant, parce que vous dites les opposants à la paix, ceux qui critiquent les accords sont les ennemis de la paix.
Je fais l'avocat du diable.
Non, mais donc moi je vais parler donc du côté palestinien que je connais. Je connais beaucoup moins bien le côté israélien. Je crois que les Palestiniens qui sont opposés aux accords de Taba ou d'Oslo ne sont pas nécessairement les ennemis de la paix. Certains d'entre eux le sont sans doute. Mais je crois que chacun aspire qu'à une chose, c'est aspirer à la paix justement et à une justice. Mais ceux qui s'opposent à ces accords considèrent que justement ces accords ne sont pas à même d'amener ni la paix, ni la justice, et ils combattent les accords. Alors, les oppositions sont multiples. Elles sont le fait d'islamistes, et parmi ces islamistes, il faut faire la différence entre des tendances très diverses, bon, nous reviendrons sans doute sur le sujet, mais il y a également une opposition laïque, membre de l'OLP, ou non-membre, membre d'organisations qui, dans leur ensemble, refusent les accords, ou membres également du FATR, donc du parti de Yasser Arafat au pouvoir. Il y a une très forte opposition interne au FATR qui existe. Le problème, si l'on se met du côté de cette opposition, c'est qu'en effet, elle n'est pas parvenue à s'unifier et à se donner une véritable structure efficace qui puisse constituer un interlocuteur, aussi je dirais, à l'autorité palestinienne.
Avec cet entretien avec Jean-François Legrand se termine le numéro 108 de novembre 1995 de Dossiers internationaux. On vous renvoie à la lecture du Monde diplomatique pour les articles que nous avons présentés et les autres qui sont très nombreux. Et on vous dit au revoir au mois prochain.
D'abord, une mouvance laïque qui serait représentée par des mouvements comme le Front populaire de libération de la Palestine et le Front démocratique. Une mouvance religieuse dont le fer de lance, vous l'avez dit, est le Hamas. Alors il est vrai que c'est surtout cette mouvance religieuse qui est représentée dans les territoires palestiniens. Le Hamas a acquis une véritable légitimité dans les territoires palestiniens en raison d'un important réseau à la fois de systèmes d'entraide, que ce soit à travers ses écoles, à travers ses bureaux d'aide sociale. Mais il est vrai également que ces derniers mois, sa popularité a eu tendance à chuter, où l'autorité palestinienne a mené une véritable